Le Seigneur ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Et il attend de nous aussi quelque chose. Oui, nous sommes là sauvés pour servir Dieu, mais nous voulons aussi considérer une autre facette du service qui n'est pas à négliger. Parce que si nous pouvons servir notre Dieu, nous devons aussi réaliser que le Seigneur attend de nous un autre service qui est important dans la vie du chrétien, à savoir le service des autres. Être au service des autres. Voilà quelque chose d'important, d'essentiel. Vous savez, la plupart du temps, on considère le service uniquement qu'envers Dieu. Mais on se trompe. On doit servir aussi les uns les autres. On doit se servir mutuellement. On ne doit pas simplement attendre que les autres fassent le service. Mais nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de réaliser que la vie chrétienne n'est pas, comme pensent certains, une vie égocentrique, centrée sur soi-même. Parce que vivre ainsi attristerait le cœur de Dieu. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur voit la vie. Puisque lui-même, en étant venu sur la terre, il n'a pas fait cas de sa propre vie, mais il a livré pour nous. Le Seigneur, en étant venu sur la terre, pour obéir à son Père et faire la volonté de son Père, s'est livré volontairement pour être au service des hommes. Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et en servant Dieu, il a été au service des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on lit la parole de Dieu, on voit Jésus qui était aux côtés des uns des autres. Parce qu'il, pour lui, il était indispensable. Puisqu'étant venu pour révéler le Père, pour révéler l'amour de Dieu, il devait être au contact des hommes. Et comment allait-il être au contact des hommes sans servir les hommes? La question que je me suis posée et que j'aimerais que l'on se pose ce matin, peut-on servir Dieu en ignorant cette facette du service? Je vous pose la question ce matin. Peut-on servir Dieu en ignorant le fait d'être au service des uns des autres? Nous allons voir ensemble cette facette. On va parler de ce qu'est le service, ce qui la motive et les conséquences qui en découlent. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 9, 7 à 11. L'apôtre Pierre dira ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Servir, voilà une grandeur aux yeux de Dieu. Même si, véritablement, avant toute chose, nous devons servir le Seigneur, comme je l'ai dit, il est important de réaliser que je ne peux pas servir uniquement, servir le Seigneur en ignorant cette facette du service. Servir, c'est s'humilier. C'est le chemin de la vraie grandeur. le chemin de la vraie grandeur. Parce qu'il est venu sur la terre, Jésus, non pour être vu des hommes, mais il est venu révéler le Père. Il est venu véritablement, dans son humilité, servir les hommes. Et Jésus lui-même montre réellement ce qu'est cette grandeur. Il est l'exemple de cette humilité, Jésus. Dans Philippiens au chapitre 2, versets 1 à 8, Paul montre véritablement ce que Jésus est venu faire. Et il montre que Jésus, dans son humilité, a revêtu cet habit de service. Paul dira ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, étant venu sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Paul dira ceci: il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. En prenant une forme de serviteur. Il est important de réaliser qu'il est l'exemple même de cette humilité, Jésus. Il n'a point regardé comme une proie arrachée pour se faire égal à Dieu. Il aurait pu, en étant venu sur la terre, chercher à se faire servir. Mais ce n'est pas ce qu'il a cherché à faire, Jésus. Il n'a pas cherché à se faire servir. Il n'a pas cherché véritablement à ce que les hommes le voient, mais il est venu révéler le Père. C'est pour cela qu'il est allé vers les hommes. Il est allé pour manifester l'amour de Dieu envers les hommes. Et comment manifester cet amour en restant loin des hommes? Cela n'a pas été le cas. Jésus est allé au contact des uns des autres. Il s'est humilié pour nous servir. Vous savez, il est important de réaliser, frères et sœurs, que nous vivons dans un monde égoïste. Je ne vous apprends rien de nouveau. Nous vivons dans un monde égoïste. Tout est centré sur soi-même. Chacun veut être vu des autres. On veut être servi. C'est bien d'avoir les pieds sur la table pour être servi. N'est-ce pas? On rentre à la maison, tout est prêt. On a les pieds sur la table. Comme autrefois, on se fait même enlever les chaussures. Ah, c'est belle cette vie, hein? Mais ce n'est pas ainsi que Jésus est venu sur la terre. Il s'est humilié. Et il n'y a point de grandeur sans humilité, et il n'y a pas d'humilité si nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous demande. On peut réaliser quand même que l'apôtre Paul montre quelque chose de merveilleux. Servir, c'est s'oublier, et Jésus va s'oublier. Il dira ceci au verset 4: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Vous savez, si je ne vois pas l'autre comme étant au-dessus, je ne me mettrai pas à ses côtés pour le servir. Le serviteur, s'il sert le maître, c'est parce qu'il le voit au-dessus. Si le serviteur veut se mettre au même niveau que le maître, il ne se soumettra pas. Il ne se soumettra pas. Tant qu'il ne voit pas le maître comme étant au-dessus, Même si les uns envers les autres, il n'y a pas ce rapport maître-serviteur, il est dit, voilà, que nous regardions les autres comme étant au-dessus de nous. C'est la parole qui nous le demande. Et si je veux être au bénéfice de la grâce de Dieu, si je veux être au contact de la bénédiction de Dieu, je me dois de vivre ce que Dieu me dit dans sa parole. Nous nous devons, frères et sœurs, de marcher sur ce terrain d'humilité comme Jésus, qui est l'exemple parfait. Alors, voilà, c'est quelque chose d'important. Servir, c'est s'oublier. Si je ne m'oublie pas, je ne servirai pas les autres. Vous savez, s'oublier, ce n'est pas le propre de l'homme. Vous êtes là avec moi? Ce n'est pas le propre de l'homme s'oublier. Parce qu'on veut être vu. On veut être vu des autres. Et parce qu'on veut être vu des autres, on ne veut pas se rabaisser, on ne veut pas être au premier rang pour servir les autres. J'aimerais véritablement que l'on puisse ce matin réaliser, comme Pierre l'a dit, la fin de toute chose est proche. Nous vivons les temps de la fin. Et tout s'accélère, tout se met en place pour nous montrer véritablement que le retour du Seigneur est certain. Il est certain le retour du Seigneur, que nous le voulions ou pas. Le Seigneur reviendra chercher son Église. Il reviendra chercher l'Église voilà, qui s'est humiliée. Et il faut réaliser véritablement, frères et sœurs, que malheureusement, quand le Seigneur viendra chercher son Église, ce n'est pas toute l'Église qui sera enlevée. Je ne vous fais pas peur. Hein. Ce n'est pas parce que je suis assis sur une chaise que je serai enlevé quand le Seigneur reviendra. Je serai enlevé si je vis en conformité avec ce que Dieu veut. Il est dit dans la parole, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Ah, ça fait peur, hein. Plaise au Seigneur que nous soyons tous enlevés. Je ne sais pas vous, mais je ne veux pas rester là. Absolument pas. Voilà pourquoi je veux faire ce que Dieu me demande. Parce que être baptisé, excusez-moi, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est une démarche, certes. Occuper une chaise ici, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Même prêcher, ça ne suffit pas. Même prêcher, ça ne suffit pas. Je peux, en tant que voilà, un prédicateur, annoncer la parole et passer à côté de ce que le Seigneur attend de moi. Donc, je me mets au même niveau que vous. Alors, frères et sœurs, il est important. Jésus va dire ceci. Il va donner une exhortation à ses disciples. Dans Luc, au chapitre 22, versets 24 à 27, il dira, voilà, il va y avoir une discussion entre les disciples. Il cherchait à savoir qui allait être le plus grand. Ça se voit dans le monde, mais malheureusement, ça se voit aussi dans l'Église. Mais on ne réalise pas que la grandeur aux yeux des hommes est différente de celle de Dieu. Il est dit ceci, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Ah, ça arrive aussi hein, dans l'Église, hein, des contestations. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Il faut réaliser quand même le contexte dans lequel cette discussion a eu lieu. Jésus était à quelques heures véritablement d'être cloué à la croix. Il annonce à ses disciples qu'il allait être livré. Mais voyez, au lieu de se préoccuper de ce que Jésus venait de leur dire, ils mettent de côté la pensée de Jésus Le fait qu'il allait être cloué à la croix, le fait qu'il allait être enlevé, et ce qui les préoccupe, c'est ça. Voyez-vous, frères et sœurs, parfois, on ne se rend pas compte, on met en avant des choses secondaires. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il nous remet toujours sur le chemin. Il dira ceci, voilà, Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je dis, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. » Quel est le plus grand? Aux yeux des hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui est assis les pieds sur la table, en attendant d'être servi. Ça, c'est la grandeur humaine. Mais on réalise quand même que quand on lit la parole de Dieu, Jésus va toujours à l'encontre de la pensée humaine. Il va toujours à l'encontre. Parce qu'il ne veut pas que les hommes se perdent. Parce que vous savez, nos pensées nous perdent, frères et sœurs. Nos pensées nous perdent. On croit connaître quelque chose, mais malheureusement, parfois, on est sur le mauvais chemin. Et le seul moyen de réaliser véritablement ce qu'est le chemin de la droiture, de la vérité, c'est la parole de Dieu. D'où l'importance, frères et sœurs, d'être toujours au contact de cette vérité. Il dira, voilà, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Étrange quand même, hein, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui aurait pu se faire servir? Puisque dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il dira « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Le sujet de discussion des disciples est un point fondamental, encore d'actualité aujourd'hui. Et Jésus, voilà, il fait ce qu'il dit. Il dira, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Parce que c'est l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 13 qui montre véritablement cet exemple. Lorsque Jésus, alors qu'il était avec ses disciples, voilà, il se met à laver les pieds des disciples. Mais vous savez, le plus grand service que Jésus a rendu aux hommes, ce n'était même pas le fait de laver les pieds des disciples. Le plus grand des services que Jésus a rendu, c'est d'avoir donné sa vie. Il dira, voilà, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Si cette rançon n'était pas donnée, aucun de nous ne serait là ce matin. Il a fallu qu'il nous serve en se laissant. Voilà le plus grand service que Jésus a rendu aux hommes, et dans son humilité. Et l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et si je veux imiter le Christ, qu'est-ce que je dois faire? Grandeur et service vont de pair. Pas de grandeur sans humilité. Et il se donne lui-même un exemple. Il est notre exemple parfait, Jésus. Et si je veux véritablement que le Seigneur soit glorifié et qu'il soit vu, je dois faire comme Jésus, m'humilier et m'oublier. Ah, c'est difficile, hein? Mais combien c'est glorieux si je marche sur ce terrain-là. Et je le dis aussi à moi-même. Ce que le Seigneur attend de moi, ce n'est pas d'être vu de l'Église. Si le Seigneur attend de nous, ce n'est pas d'être vu des uns des autres, c'est qu'il soit vu au travers de nos vies. C'est ce qui glorifie Dieu. Pierre le dira, soyez les serviteurs afin que Dieu soit glorifié en vous. Alors, il est important véritablement de réaliser cela. Quand j'agis comme le Seigneur veut, voilà ce qui lui plaît. Parce que servir, c'est se donner. Il est venu donner sa vie en rançon. Oh, servir, c'est servir dans l'ombre sans vouloir être vu des autres. Vous savez, parfois, on cherche, quand on veut faire quelque chose, on cherche à être vu des autres. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Lorsque tu dors, tu fais ton offrande, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que celui qui est assis à côté de toi ne sache pas ce que tu fais, mais sers comme le Seigneur te le demande. Vous savez, nous devons être véritablement sensibles à l'Esprit de Dieu. Si nous voulons plaire au Seigneur, le prophète Ésaïe montre véritablement en Jésus celui qui est venu, non pas pour être vu. Au chapitre 53, il parle de lui comme celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais cependant, son œuvre a été grandiose. La motivation du service. Qu'est-ce qui doit motiver qui doit m'animer pour que, voilà, je me rabaisse pour servir les uns les autres. C'est la même motivation qui a animé le Seigneur Jésus, à savoir l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Pierre le dira, ayez envers les uns les autres une ardente charité. Avant toute chose, ayez les uns envers les autres une ardente charité. Et l'apôtre Jean en dira ceci, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En action. Je peux aller dire à quelqu'un, je t'aime. C'est facile ça. C'est facile. Le Seigneur n'est pas venu simplement dire aux hommes que Dieu les aimait. Certes, il l'a dit, mais il l'a prouvé. N'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action. Vous savez, c'est cet amour qui a poussé le Samaritain. Nous connaissons bien cette histoire du bon Samaritain. Mais quand on creuse au fond, alors qu'il ne connaissait même pas cet homme, quand nous lisons le passage, on se rend compte que ceux qui devaient être véritablement au service de cet homme s'en sont détournés. Le sacrificateur, les lévites, etc. Mais cet homme, véritablement, qui n'avait rien à voir avec celui qui était blessé, c'est l'amour pour son prochain qui a poussé ce Samaritain à avoir compassion. Combien cela doit être notre vie. Combien cela doit véritablement nous animer. Et on se rend compte quand même que c'est l'attitude et l'état de cœur qui doit animer l'enfant de Dieu. C'est cette attitude-là que je dois avoir. C'est cette attitude que l'Église doit avoir afin que le monde, en nous voyant vivre, puisse être touché par l'amour de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 5, versets 1 à 2, Paul parle de l'amour sacrificiel du Christ qui l'a conduit à la croix. Vous savez, quand le chrétien réalisera la portée du sacrifice de Christ, il comprendra véritablement la valeur de son service envers les autres. Je répète, quand nous allons comprendre la valeur de ce qui a poussé Jésus à se livrer à la croix, je comprendrai ce que je dois faire pour mon frère et pour ma sœur, mais aussi pour ceux de dehors. Vous savez, notre amour pour le Christ doit nous amener à apprendre à vivre notre vie chrétienne, non pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut. Parce que parfois, on définit la vie chrétienne comme nous voulons. Mais la vie chrétienne ne se définit pas à la manière des hommes. La vie chrétienne ne se définit pas à la manière du pasteur. La vie chrétienne ne se définit pas à la manière de ma connaissance théologique. La vie chrétienne est définie par celui qui a donné sa vie. Alors, il est important, comme Paul dira dans Galates au chapitre 5, voilà, il montre véritablement il dira, rendez-vous par la charité, serviteurs, les uns des autres. Paul n'a pas dit rendez-vous par la charité, faites-vous servir. C'est facile ça. Mais non, rendez-vous par la charité, serviteur des uns des autres. Vous savez, l'immense faveur que Dieu a manifestée par l'affranchissement du péché doit véritablement nous amener à une vie pratique que la loi ne donnait pas. La loi dit « aimer ». C'est ce que Dieu a dit à Israël. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est ce que dit la loi. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse à agir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à mettre en application. Parce que je peux obéir, c'était sous la loi, sans le vouloir. Mais l'Esprit de Dieu nous pousse véritablement à nous livrer comme Christ s'est livré pour nous. Vivre sous les normes de la nouvelle vie en Christ, voilà quelque chose d'important. Dans 1 Jean au chapitre 3, versets 16 à 17, l'apôtre Jean dira ceci. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » Et c'est après cela qu'il dira, « N'aimons pas en parole seulement, mais en acte. » Si quelqu'un voit son frère dans le besoin et qu'il ne s'humilie pas pour lui venir en aide, pour être au service. Comment encore je peux aller lui dire « Dieu t'aime » ? Comment puis-je lui dire ça ? Et il est important de réaliser, frères et sœurs, que voilà, c'est quelque chose d'important. Jean vient pour terminer aux conséquences de cette vie pratique du chrétien. Parce que servir les autres, c'est être un instrument de bénédiction entre les mains du Seigneur. L'apôtre Paul le dira. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des dons, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, on est un instrument entre les mains de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, c'est encore un instrument entre les mains de Dieu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus à qui appartiennent la gloire et la puissance. Amen. Et Paul nous montre, Pierre nous montre également que le but du service, c'est pour la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment, on sert sans vouloir être vu des autres. Mais si je sers, c'est uniquement pour que Dieu soit glorifié. Il le dira, afin que Dieu soit glorifié en toute chose. C'est le but. L'Église n'est pas là pour être vue. L'Église est là pour que Dieu soit vu au travers de ses actions. Le chrétien n'est pas là pour être vu. Le chrétien est là pour que Dieu soit vu au travers de ce qu'il fait, en vivant une vie conforme à ce que Dieu attend de nous. Alors, frères et sœurs, Paul s'est rendu serviteur. Et j'aimerais que l'on lise véritablement ce passage pour montrer ce qu'il va faire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 19, il dira ceci, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis laissé servir par tous. » C'est vrai ça? Ah non. Bien que je sois libre, il avait la liberté de se faire servir. Bien que je sois libre, je me suis rendu le serviteur de tous. Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, etc., etc. Bien que je sois libre, je me suis fait serviteur. Si l'apôtre Paul s'est humilié pour servir, c'était en vue du salut des âmes, mais aussi en vue de l'affermissement du corps de Christ, qu'il s'est rendu au service. Frères et sœurs, si nous voulons véritablement que le monde sorte de sa mauvaise voie pour être sur le chemin de la vie, nous devons faire comme ce que Paul a fait. Comme ce que Jésus a fait, lui-même il dira, « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. » Nous voulons voir des âmes sauvées, soyons au service des autres. C'est ça qui va toucher les âmes. Ce n'est pas uniquement les paroles que nous allons lancer. C'est plus facile de dire à quelqu'un « Dieu t'aime ». C'est plus facile de dire à quelqu'un « Dieu t'aime ». Mais vous savez, la vraie foi nous pousse à servir. Et Jacques le dira. Je termine avec ce verset. Jacques chapitre 2. Verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquant de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous savons, frères et sœurs, que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Parce que Paul dira aux Éphésiens, c'est par grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent. Ça aurait été le cas, je ne sais pas, si on serait là, parce qu'il fallait faire. Mais si par grâce j'ai été sauvé, je dois véritablement montrer mon amour pour Dieu en me livrant comme Christ s'est livré pour servir les uns les autres. Et Pierre et Jacques continuent à dire ceci. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et dans un monde qui cherche à être vu, le chrétien a besoin véritablement de manifester l'amour de Dieu en s'humiliant comme Christ s'est humilié et en étant au service des uns des autres. Je conclue en disant ceci. Quand je prends conscience de ma place de représentant et d'instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, cela m'amène à servir Dieu, mais aussi à servir les autres. Parce que si je réalise qui je suis en Christ, je dois vivre ma vie chrétienne, non pas comme je le pense, mais comme veut le Seigneur. Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Le croyez-vous ? Nous sommes les représentants. Nous sommes des instruments de bénédiction, des instruments que Dieu veut se servir, voilà, pour que le monde connaisse véritablement qui il est. Quand je réalise cela, je me mets au service non seulement de Dieu, mais aussi des uns des autres. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Parce que, comme Pierre l'a dit, nous sommes dans les temps de la fin. Et on court de partout pour faire tas de choses. Même au sein de l'Église, on veut faire quelque chose pour être vu des autres. Mais parfois, on passe à côté. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons véritablement être sensibles à la voix de l'Esprit. Parce que si je ne suis pas sensible, je passe à côté même d'un frère ou d'une sœur qui a besoin de moi. Que le Seigneur nous aide. Véritablement, que le Seigneur nous aide à entrer pleinement dans ses desseins bienveillants. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés pour la gloire de son nom. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui es venu du haut des cieux et qui t'es humilié véritablement pour donner ta vie en rançon pour nous. Nous réalisons le grand service que tu as fait aux hommes. Tu t'es livré, Seigneur. Non seulement tu t'es livré, tu étais au contact. Et Seigneur, mon Dieu, tu prenais soin les uns des autres, Seigneur, mon Dieu. Tu as pris soin de la veuve, tu as pris soin de l'orphelin, Seigneur. Tu as pris soin du malade. Alors, éternel, mon Dieu, mon roi, alors que tu pouvais te faire servir, Seigneur, tu t'es humilié pour servir. Quelle leçon, mon Dieu, tu nous donnes ce matin, alors que nous sommes dans les temps de la fin, Seigneur. Puisque tu reviens bientôt, Seigneur, mon Dieu, notre désir, ce n'est pas d'être vu des autres, Seigneur, mais nous voulons que tu sois vu au travers de nos vies, Seigneur. Alors, permets-nous encore, Père éternel, de marcher véritablement dans ce que tu as prévu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mettre en pratique ta parole. Oh, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, Seigneur. Aide-nous encore ce matin, Seigneur, à réaliser, oh, éternel mon Dieu, que qu'en servant Dieu, tu es venu pour servir les hommes, afin que ton Père soit glorifié. Éternel, notre but, c'est que tu sois vu et connu, Seigneur, dans ce monde. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen.